de toutes sortes. Vous comprenez comment Ésaü connaît ses Isaacs. Mais il est bien évident que dans la sensibilité juive, dès qu'on entend gibier, chasse, c'est rachat d'amour. Quelqu'un qui est capable de chasser pour manger, et vous allez me dire, et on va en parler, et comment on mange finalement est capable de n'importe quoi en ce qui concerne tout ce qui est l'histoire du monde, depuis Caïn et Abel, donc à lire les journaux, comment les hommes tuent les hommes, c'est la chasse. Est-ce que c'est clair? Donc, d'où la question du rat. Rit tzadik gadol ki yitzrak alinu alav hashalom. Shein hashchina nifredet mimenu afilu sha'acha yehye ohev rasha gamur kemo esav ve'each efshar. Et comment est-il possible? Et là, sod gadol misodot ha'torah. Mais c'est un des secrets, des grands secrets de la Torah. Dar, sache ki yitzrak alinu. Que Isaac, notre père, à la Vachalom, a tsofé, voyait, prévoyait, qu'on a rapide l'avo, tout ce qui se préparait à advenir, le tsafa, et il a vu, il a contemplé à l'avance, prévu. Verra, et il a vu, qui venait à Jacob, que le fils de Jacob, il y aurait deviendront des pêcheurs, marissim ibn Hachem, seront en rébellion devant Dieu, Hachem ibn mais Yershu dinegin, et mériteront d'hériter, le texte dit hériteront, je vous explique un peu, les jugements de leur père. Voilà, directement à la limite. Et j'ai essayé, dans l'introduction, d'expliquer cela. Que c'est le sort de l'âme dans le monde du corps, c'est de risquer, a priori, de tomber en enfer. Est-ce que c'est clair? Je crois qu'il n'y a même pas expliqué. Vous voyez comment dans l'assaisonnement de la Kabbalah, on gagne du temps. C'est-à-dire, on dit tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce que c'est clair? Sans, avec précaution, mais enfin, pratiquement sans problème. Ça veut dire que la condition de l'homme en tant que créature corps et âme dans le monde des corps, c'est de risquer de tomber en enfer. Il y a énormément de textes dont s'étonne, parce qu'il y a un midrash déjà, dans le Zohar bien entendu, comment est-il possible que l'âme accepte de vivre dans un corps? C'est tellement différent, ça n'a rien à voir. L'âme, c'est un être d'en haut, disons, et le corps, c'est un être d'en bas. Comment est-il possible que l'âme existe, soit située dans un corps et qu'elle accepte? Alors vous voyez quel niveau le relève. S'il s'agit d'une identité humaine vouée au monde tel que Dieu l'a voulu vraiment, c'est-à-dire dans notre existence de croyant, le monde à venir, dans ce monde-ci, on est perdu. Alors, et dans la littérature générale que je connais, je connais très peu. Il y a des allusions à cela. Par exemple, chez les Grecs, l'idée que le corps était la tombe de l'âme. C'était soma, soma, oméga et omicron. Soma, soma, pas ici la même manière. Et le gène refuse cela, comme je l'envoie. Mais, enfin, repousse cela. Mais pour découvrir le problème, il est évident que si on comprend qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Isaac comme Jacob, d'après le texte biblique, ou fils d'Isaac comme Ésaü, Jacob, dans le monde d'Ésaü, est perdu. Enfin, pour le dire encore sous forme de métaphysique, on dirait que c'est suffisamment clair, l'âme dans le monde des corps est en enfant. C'est juste là. Alors, me vient à l'esprit un poème, je ne sais plus lequel poète, je crois que des parnassiens, mais je ne sais pas. Un poème qui s'appelait l'Albatros. Il y a une marionquette là. C'est dans le film, oui. C'est Baudelaire. C'est un oiseau qui, sur Terre. Il a fait, exactement. Oui, c'est à peu près ça. Et puis nous avons un tas de buts. beaucoup d'analyses qui renvoient à cela. Alors voilà ce que voit Isaac, c'est que la descendance de Jacob est celle qui est vouée au monde à venir, mais elle vit dans son exil. Alors donc elle va tomber dans la faute, et donc elle est passible d'enfer. Je continue. Ou chez Yitzhak, et lorsque Isaac a vu, chez Israël Vagalut, que Israël dans l'exil. Non. J'ai changé de ligne, vous savez. Chez Yitzhak, chez Israël Begalut Aesav, et lorsque Isaac a vu qu'Israël serait pas dans l'enfer, mais en chrétienté, dans l'exil d'Esaü, ça marche, il s'est réjoui. Ça vaut mieux que l'enfer. Ça, il faudrait demander aux juges qui ont été en chrétienté. Ça vaut mieux que l'enfer. Enfin, je vous récapitule l'histoire de 2000 ans, lâchement y compris. C'est pourquoi ce texte me paraît à moi à étudier. J'en dis pas plus. Comment sera qui vivait en Espagne en plein Moyen-Âge peut dire ces choses aussi abruptement en disant après tout ce qu'on a vu. Et nous qui avons, qui savons maintenant ce qui s'est passé dans cette histoire, la Shoah y compris, on pourrait se demander. Alors, qu'est-ce que c'est l'enfer ? C'est ça ? Oui, à quel point ça va loin. Verma, Galut, Mechatomet, Hamon. Donc, soulagé, Isaac dit bon, l'exil, ça expie les péchés, comme disait le rabbin. Verma, Ken, Anioheb, Meot. Oui, j'aime beaucoup. Kola Tsarot, Chen Esa, toutes les Tsarot que Esa va faire à Jacob. C'est un humour, ça, en plus. Colossal. Les lamed à l'Israël, Hora, d'accuser Israël, les lamed categoria, ça veut dire de lamed Hora. Aidez-moi à traduire. D'accuser, mais enfin d'argumenter l'accusation. Qu'est-ce que les gourmands à l'Ehem a dit, afin d'achever le jugement, Bagalout, dans l'exil, par la masée dans son exil. C'est à ce qu'on arrive à Ralamaba, natif, comme on dit, quitte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quoi pensaient les rabbins au Moyen-Âge espagnol. On pourrait formuler ça, il vaut mieux ça que pire. Ils vivaient dans le monde idyllique. Alors, j'ai souligné ce qui suit, Vézéou, c'est cela le sens du verset, Vaye Havitzak Laesa. Et Isaac a aimé Esaü, quitte Saïd Béchi, car il avait le goût du gibier dans sa bouche. Je ne vais pas encore interpréter le verset, parce que le rab va le faire dans son sujet. Mais ensuite, nous le reviendrons. Ou Mahou, quitte Saïd Béchi. Et qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il avait le goût du gibier dans la bouche, le gibier dans la bouche. Et là, mais, ça signifie ceci, Ra, Isaac a vu Bnei Yaakov, les fils de Jacob, Netsudim, pris au piège, comme, je vais traduire, comme des poissons dans un filet de pêcheurs, Matsud, Tsaïd, ou des oiseaux dans un filet d'oiseleur, pris au piège, Bédine et Gehinam, dans les jugements de l'enfer, verra, et il a vu, Bédine Tsaïd, il a eu une appel, il était dans l'angoisse, ou Kshara, Galut, Edom, et lorsqu'il a vu l'exil chez Edom, verra Atsaït chez Gehinam Natum Befil, et qu'il a vu que la proie de l'enfer était dans sa bouche à lui, Edom, Befil Shraessa, dans sa bouche d'Esaü, verra Galut Mechaperet Aon. Et il a dit, je préfère l'exil qui expie les péchés plutôt que l'enfer. Il a vu que Esaü avait pris la proie, sa proie de l'enfer, c'était des juifs, enfin les fils de Jacob qui étaient en enfer, qui auraient risqué d'être en enfer. Un texte énorme. Est-ce que c'est clair? Je veux dire que mon maître avait étudié ça certainement avant la Shoah, mais il a commis la Shoah. Alors nous étudions ça 40 ans après. Je ne sais pas ce que ce rab aurait dit maintenant. À moins que la loi nazie, c'est pas Et donc, exactement, et ça, c'est peut-être Amalek. Mais ici, on parle de Edom. Malgré tout, les persécutions des Juifs chez Edom, c'était quand même énorme. Le nazisme a dépassé. Mais alors, ça nous pose un problème de savoir, parce que ce sera, c'est ce qu'il dit, c'est clair. Pour qu'on comprenne le poids de la cohérence.
Il y a un parallélisme entre les deux, de la même manière que Srak, que Esav a pris la vie de Srak, les Israël ont pris la vie de Esav.
Là, nous lisons le verset, le pshat du verset, que Tsaïd Béfi, fiv, c'est pas fiv chez Yitzhak, c'est fiv chez Esav. Mais pas en drache, en pshat. Je vous cite un Zohar. J'ouvre une petite parenthèse, où je vais réserver ça pour demain, mais plutôt la première question. Le Zohar dit ceci. Cette proie qu'il y avait dans la bouche d'Ésaü, c'était la neshama de Rabbi Meir, l'âme de Rabbi Meir. Vous savez que Rabbi Meir.
Baranes ?
Rabbi Meir Baranes, quel ? Rabbi Meir était un descendant de convertis, de Jidumer. Vous ne savez pas ça ? Bon, vous savez, d'être converti de Chine, vous avez Rabbi Meir. Et alors, que Isaac a vu. Dans la bouche de Rabbi Meir, une proie qui était la Neshama, dans la bouche d'Esav, une proie qui était la Neshama de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Meir était le grand maître de la Torah Shabbaté, Stam Mishnah Rabbi Meir. Donc on n'a pas besoin de citer qui a enseigné cette Mishnah, ça vient dans cette bouche de Rabbi Meir. De la manière que Stam Torah, Moshe Rabbeinu, Stam Mishnah Rabbi Meir. Vous connaissez ça? Bon, il y a Stam Raïta, Stam Dora, un sujet politique. Et alors, qu'est-ce que c'est ça, cet enseignement que la forme de la Mishnah, c'est grâce à Rabbi Meir, parce qu'il est descendant de lui. Ce que je vais vous citer là, j'ai essayé de comprendre. C'est que ce qui caractérise la force juridique du Talmud, c'est la capacité, précisément, je suis essentiel en disant juridique, la capacité de la pensée juridique de maîtriser le droit, la légalité, et ça, c'est le génie romain. Et petite parenthèse, vous savez que les chrétiens ont accusé les juifs, on les appelant pharisiens, de légalisme. Mais il faut savoir, pour une âme juive, le légalisme, c'est romain. Oui. D'ailleurs, lorsqu'on nous dit parisien, on entend Jésus. Mais ça, il faut savoir. Calomnie. L'âme juive n'est pas du tout légaliste. Mais on est obligé d'être légaliste pour avoir un droit pour la société. Le piège de la mentalité talmudique, qu'on appelle le plus cool, c'est précisément le légalisme romain. Est-ce que c'est clair, Jésus? D'ailleurs, les grands baptistes sont toujours insurgés contre le pulpit. En particulier, c'est le Maharal en passant, mais pas seulement lui. Le pulpit est nécessaire en très haute pratique, en exercice de style, mais dès qu'on croit que les exercices de style cessent à la Torah, alors ça devient le légalisme juridique. C'est bien clair. Or, précisément, la force de la Torah Shebaalpé vient de cette capacité de se servir de ce qui est l'apanage de Ésaü, le droit romain, pour la Torah. Alors pourquoi Isaac aimait Ésaü? Parce que dans sa bouche, il y avait la force de la Torah chez Béalpé, qui était la Bible. Tu vois? Alors c'est pourquoi il aimait Ésaü. D'ailleurs, Ésaü, dans le Midrash, était un expert en pulpou. Vous connaissez tous ces Midrashis? Comment il trompait son père? J'ai rencontré deux ou trois vibrations, vous avez sûrement entendu. Il lui posait des questions d'orthodoxe. Et c'est ça. Vous avez compris. Est-ce que c'est caché? Alors Isaac s'est dit, qu'est-ce qu'il est pur, mon fils? Oui, vous savez. Alors, non, mais c'est très sérieux. Il demandait à son père, est-ce qu'on a fait le maaser sur le sel? Alors, on ne fait pas le maaser sur le sel. Il faut être le... Vous avez compris, le problème. Alors, et Isaac se dit, il est pur à ce point, le maaser sur le sel. J'ai entendu une blague de Strasbourg. J'ai entendu à Strasbourg, il y a des années. Je crois que c'est un Nord-Africain qui me l'a raconté, mais je crois qu'il l'a mis en œuvre, hein, pour lui. Il a dit, voilà, je vais te faire téléphoner à tous les gens que de la vie, que dans l'épicerie juive, parce qu'il y a l'épicerie juive. On va vendre du sel calibré pour la viande. Et alors, on a vendu, c'est une blague de voulu. On a fait savoir qu'il y a eu sel calibré pour le chiot. Il y avait la queue devant l'épicerie. Et après, le rabbin a expliqué, on a fait une blague. Ça ne dit pas. Oui, je vais juste vous appeler le légaliste. Oui, c'est le chat, comme le ministre. Ça veut dire que des filles du verset, c'est pas Isaac, c'est Esaïe. Effectivement, il y a un brache qui tsaïd des filles, ça j'y viendrai après, que Isaac avait l'envie du goût du gibier dans sa bouche, et comme c'est Esaïe qui donnait à manger, il l'aimait pour les, comment dire, les halaot, les jouissances terrestres. Le fils d'Isaac, pour la terre, c'est Esaïe. Parce que quand on vit sur terre, il faut manger. Et qui en a mangé, c'est Esaïe. Et le goût de la nourriture que donnait Esaïe était dans la bouche de Isaac. Mais ça marche. D'après notre tête, le pchat, qui saïd Béfi, c'est la bouche de Zahid. C'est clair, juste là. Alors, on continue. Moi, j'ai le goût de la toux dans la bouche.
Parce que vous savez tout.
Mais c'est où? Alors, on continue. Et il va nous citer un verset de Jérémie dans le chapitre 2. Voilà ce que dit le prophète Jérémie, Kodesh Israël Hachem. Israël est consacré à Hachem. Suivez le verset. Réchit Teboato, il est la prémisse de sa récolte. Kolochlav Yesham. Tous ceux qui le dévoreront à Israël, mangeront la récolte de Dieu, Yesham, seront frappés d'interdit, seront déclarés coupables. Or, Esaïe est celui qui veut manger la récolte de Dieu qui est Israël. Il a le gibier dans sa bouche. J'ai dit gibier, mais j'ai compris ce que ça veut dire en hébreu. Hein. C'est ce qui va servir de nourriture pris au piège. La tzoutzaïd, c'est comme l'oiseleur, le pêcheur, la proie. Hein. Voilà. Et néanmoins, voici que je t'ai fait savoir. Qui a frappé que bien que chez Midat Yitzhak, que la modalité de vertu d'Isaac, la Mida d'Isaac, et à Paham, c'est la terreur. Ça, je vais expliquer après, mais je traduis d'abord. Kavanata, biscote d'Israël, les à côté d'Israël. Son intention de cette Mida d'Yitzhak et Paham, la terreur de la rigueur de la justice, c'est de faire mériter Israël. Mais Zénousot, c'est le sens du verset dans Shmot, dans ce chapitre 32, verset 13. Zechor le Abraham, le Yitzhak, ou Israël, Avadecha. Lorsque Moïse plaide après la fin du Vaudor, il demande à Dieu, Zechor, souviens-toi d'Abraham, d'Yitzhak et d'Israël, tes serviteurs. Et il va expliquer que plus loin, qui, Hachem et Barah, car Dieu, mais à qui est Israël de Galut Rassa? Fait mériter Israël dans l'exil de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, mais à qui est Israël de Galut Rassa? Comment dire, privilégie Israël en l'envoyant en exil chez Dieu et pas au Géhina. Alors là, je vais quand même ouvrir une parenthèse parce qu'on va dire des choses énormes. Alors je vais un peu au-devant de vos questions et vous me direz si vous avez des questions. Je reprends un peu l'analyse tout à l'heure. Dès qu'on a compris qu'Israël est une créature qui, dès le commencement de sa création, Israël, Allah de Mahashama, de la Midrash, est voué au monde à venir. Voilà que nous sommes envoyés dans ce monde. Dans ce monde-ci, on ne peut que échouer. Est-ce que c'est clair ce but-là? Dans ce monde-ci, on ne peut qu'être en faute. Bon, je vais employer des images littéraires, jusqu'à ce que vous disiez que c'est clair. Par exemple, l'image de l'ange déchu. Un ange sur terre ne peut être que déchu. C'est clair? Alors, admettons par postulat qu'Israël est un ange. Ah, c'est étrange, en fait, c'est un être ange. Mais, alors, admettons. Eh bien, imaginez un ange sur terre. Il peut être que comme l'Albatros. Voilà, il y a ici un enseignement direct. Il faut savoir, j'espère que vous êtes suffisamment adulte pour ce sujet, il faut savoir que l'homme est faillible, disons. Mais alors, on va prendre ça au sérieux. Qu'est-ce que dire l'homme est faillible? L'homme, vraiment, c'est pas pour ce monde-ci, mais dans ce monde-ci, eh bien, il peut que s'embrouiller les pédales dans tous les traquenards de ce monde-ci. Et donc, semble-t-il, l'histoire a posteriori nous montre bien qu'il en est ainsi. Mais Isaac voit à l'avance les enfants de Jacob, c'est les enfants de Jacob, mais ils vont être en faute dans ce monde. Par le fait d'avoir osé accepter d'être de ce monde-ci alors qu'ils ne sont pas de ce monde-ci, ils risquent l'enfer. Alors, mais pourquoi on les a envoyés? C'est un autre problème. Hein. Pour le moment, je décris la situation. Est-ce que c'est clair? Il y a dans la Gemara une question qui va vous étonner. La Gemara demande dans Baba Kama, page 100 à peu près, pourquoi un goy meurt? La mort punit les fautes, mais un goy n'est pas soumis à la loi. Or, il ne devrait pas mourir. Dans ce cas, vous vous relevez de la Gemara? C'est votre question. Et vraiment, la Gemara, c'est à propos de, je veux dire, c'est de Abimelech. La Gemara se demande. Quelqu'un peut m'apporter une Gemara de Baba Kama, je vous dis à ce moment-là, sinon demain. Il a donné un mille. Il y a un grand principe de la Gemara. El mita belochet veini surim belaravon. Il n'y a pas de mort sans faute, et il n'y a pas d'épreuve, il sourit, plus d'épreuves. Il sourit, mais des malheurs, oui, sans péché. Donc, avon. La Gemara va demander, et pourquoi les goïmes? Puisque il n'y a de faute que par rapport à une loi. Or, ils ne sont pas soumis à la loi, à Bruyla.
Ils ont cette loi.
Non, je m'affiche. Ne m'interrompez jamais, vous lisez une phrase. Après le paragraphe, toutes les questions vous voulez. Mais jamais vous lisez une phrase. Alors, c'est interdit. Voilà, là. Non, mais c'est vrai, c'est. Michel, il y a des tours du vrai Chavero, c'est interdit. On n'interrompt jamais personne. Parce que, en tout cas, pour moi, vous me faites oublier la fin de la phrase. Alors, je reprends. Je sais bien dans les yeshivot, on s'interrompt comme ça, mais pas ici. Alors, je reviens au problème. La Gemara demande à propos du verset d'Abimelech. Lorsque Dieu se révèle à Abimelech, lorsqu'Abimelech a pris Sarah, la femme d'Abraham, c'est un autre sujet que vous avez étudié. Et alors Dieu se révèle en rêve à Abimelech et lui dit, ben, tu vas être puni parce qu'il a pris la femme d'une femme mariée. Il ne savait pas, il ne savait pas. Et Abimelech dit, « Agoy gam tzadik taharouk. » Est-ce que même un goy tzadik, tu vas tuer? Écoutez, laisse le dire, c'est un goy tzadik, de quoi il parle. C'est une gemara très importante. « Agoy gam tzadik taharouk. » Alors Gamara dit, effectivement, on va se dire à Abimelech, un goy est tzadik, par identité, c'est votre question. Okay? Parce que, étant donné qu'il n'est pas soumis à la loi, il n'a pas de faute, alors Gamara répond, il n'est pas puni de mort comme Israël par rapport à la loi. Mais par rapport au Derech Eretz, c'est-à-dire, il n'est pas soumis à la loi, mais poli, il peut être poli. C'est-à-dire, quand un étranger arrive aux frontières, on lui demande ta fin, ta soif, on lui demande si t'as fondu ta soif. Alors même la politesse, il ne connaît pas. Je veux dire pourquoi c'est important ce débat. parce que c'est notre controverse avec le polynisme. Je veux dire de quoi je parle. C'est que le polynisme est fondé sur le fait qu'il n'y a plus de loi, il y a une politesse. Dans le sens étymologique, c'est-à-dire la civilité, la loi de la cité. Polis en grec, c'est la cité. Okay. Et effectivement, ce problème est très clair. En principe, un goy n'est pas passible de mort, puisqu'il n'y a de faute que s'il y a une loi. Or, la loi n'a été révélée qu'à Israël. Or, un goy, c'est quand même un homme. Par rapport à quoi? Par rapport au déréchérez. Alors, j'entends bien qu'en français, le mot de politesse est très faible. Mais en théologie chrétienne, par exemple, et puis chez les grands philosophes, la politesse, c'est la loi d'Arka de Ara, dans le vocabulaire familial. Déréchérez en hébreu. D'Arka de Ara, ça veut dire la loi de la conduite secrète. Et comment on vit en convivialité terrestre. Et c'est la réponse de l'homme. Est-ce que c'est clair? Donc, t'as compris?
C'est pas le fait.
Oui, t'écoute.
C'est pas le fait que. Peut-être que s'il meurt aussi, c'est comme dans les sept lois de Noir, et s'il ne respecte pas cette aussi, non?
La question est de savoir si Abimelech est dans le cas des rebelles noirs. Je vais essayer d'expliquer un peu, si tu me diras si je comprends ta question. En principe, tout goy est appelé Ben Noir. En principe, tout goy est soumis à la loi des Ben Noirs. Mais il n'y a des Ben Noirs qu'à partir du Sinaï. Jusqu'au Sinaï, Israël et les Nouveautés Arolam sont tous en fait Ben Noirs. Il y a une différence entre Israël et Ben Noirs qu'à partir du Sinaï. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que la Gemara se pose la question de savoir si Abraham va être considéré déjà comme Israël ou encore comme Ben Noir. Et la réponse de la Gemara, c'est que Abraham répond à la Kushia, à la difficulté, mettez le talit, le Shabbat. Vous allez expliquer, comme dirait si pas. Alors, si les bêtes noires, le talit, c'est un vêtement. Il porte, donc il viole le Shabbat. S'il est Israël, il a le droit de porter le talit. C'est un vêtement. Donc il pratique le Shabbat. Alors, en mettant le talit, il résout la difficulté. Est-ce que c'est clair? Et, alors, le talit représente les 600 points de vue. Vous comprenez l'importance. Donc, j'ai cité cela pour dire que, en fait, il faut étudier cette question. Et malgré tout, que le texte dit tzadik. Et c'est le mot qui est employé pour noir la première fois. C'est. Alors, la question de Abimelech, c'est Agoy Gam Tzadik. Nous verrons par la suite d'ailleurs, si on y arrive, comme on aura expliqué le verset. Voilà pour cette question. Est-ce que ça va juste là? Alors, je dois expliquer Pahat. Que la Mida de Yitzhak s'appelle Pahat. C'est un verset que nous avons dans l'histoire de Jacob. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la séance de la semaine dernière. Lorsqu'il y a la discussion entre Jacob et Laban, que Laban voulait porter tort à Jacob, et que Jacob lui dit, si le Dieu d'Abraham est Pahad Yitzhak, la crainte de Isaac, la terreur de Isaac, pour dire le Dieu d'Isaac, n'était pas intervenu en ma faveur, eh bien, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi on appelle le Dieu d'Isaac la terreur d'Isaac. Alors, une explication très brève, mais suffisamment claire. C'est que la manière dont Abraham connaît le Dieu un qui se révèle à lui, c'est la Mida, la tribu, disons, la vertu de la miséricorde, de la charité, chesed, alors que la manière dont Isaac connaît la révélation divine, de l'unité divine, c'est la Mida Tadim, c'est l'exigence de la justice absolue. Et l'exigence de la justice absolue est terrifiante. Isaac est le tzaddik du pahad. C'est-à-dire la mesure de l'absolue vérité. Pour Isaac, c'est la terreur devant la justice absolue. Alors que la mesure de la relation à l'absolue de vérité pour Abraham, c'est la miséricorde de la grâce absolue. C'est clair, il est habitué. La mida d'Abraham, c'est Chesed, et la mida d'Isaac, c'est Parham. Et par conséquent, lorsqu'on est confronté en prenant au sérieux les attendus de la justice absolue, Isaac, voyant l'avenir de sa descendance, voit que c'est l'enfer. Il le voit avec terreur. Et lorsqu'il voit que Ésaü va sauver les enfants de Jacob de l'enfer en les prenant en exil, il est content. Mais comment se fait qu'il va inverser 13 fois le problème. Voilà pourquoi Isaac aime Ésaü. Parce qu'Ésaü sauve Jacob de l'enfer. Comment? Par lui. C'est un texte tellement optimiste, ce qui est incompréhensible, à posteriori de ce qu'a été l'histoire dans l'exil de Dôme. Voilà pourquoi je suis aussi. Voilà, c'est clair jusque-là. Ça se relie, oui, ça se relie à un texte du Midrash qui parle des trois patriarches, que vous avez sûrement entendu, que Dieu demande à Abraham, à Isaac et Jacob, qu'est-ce qu'ils préfèrent pour leur descendance, l'enfer ou l'exil. Et que finalement les patriarches préfèrent l'exil. Vous avez entendu ça? On pourrait s'étonner. C'est tout ce qu'il y a comme éventualité, ou l'enfer ou l'exil. Je crois que ce texte nous aide à mieux comprendre. Étant donné ce qu'est Israël, Jacob Israël, ce monde-ci, c'est la porte de l'enfer, ou si Dieu veut, de l'exil. Voilà, j'espère que j'ai dit suffisamment clair. Ok? Voilà. C'est donc ça le sens du verset. Que Isaac a aimé Ésaü parce qu'Ésaü avait le gibier dans la bouche. Quel est le gibier? C'est Israël. Quelle est cette proie? C'est Israël qui aurait risqué de tomber dans l'enfer, mais que Ésaü a pris comme gibier. Alors fais bien attention, lisons un texte kabbaliste. Ça donne des cauchemars. C'est tellement clair que ça fait peur. Oui,
mais il y a quelque chose qui ne pas comprendre. Que, bon, Isaac a préféré, enfin préféré, entre le choix entre l'exil et l'enfer, on a préféré l'exil. Mais en fait, pendant cet exil, aussi bien des dômes, même de Brit Benabetarim jusqu'à aujourd'hui, disons, dans tous les exils, il y a eu souffrance. Or, on aurait pu très bien avoir une exil dans le calme.
Ben ça, de ça on a parlé tout à l'heure.
Mais oui, je parle bien.
Oui, c'est lorsque j'ai parlé de... j'ai un goût de vie qui est bizarre. Mais j'en ai, mais ça marche pas. Oui. Voilà. Étant donné que nous avons été habitués par l'histoire et a posteriori à nous connaître comme temps de dispersion, qu'un temps qui s'appelle l'exil, avec comme connotation la persécution, le mépris, vous rappelez de l'enseignement du mépris de Jules Isaac, enfin, ce qu'a été, sauf finalement, la vie des Juifs et des Goïms, même dans les exils dorés, comme par exemple aujourd'hui, à l'abri des serrures, je vous ai parlé du pen de la serrure, mais bouclé. Alors, on a oublié qu'il y avait cette éventualité d'une relation aux nations dans la gloire, comme j'ai dit tout à l'heure, vers un petit un peu comme la conscience chrétienne. Accueillerait en son sein les Juifs comme elle accueille le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez cette histoire qui aurait pu être que chez les chrétiens, les Juifs seraient la présence du Sauveur. Ils adorent ça en effigie. Okay? Mais en fait, en réalité, c'est le sort des Juifs dans le monde chrétien. Et lorsque les prêtres chrétiens disent à leur joie une chrétienne, vous crucifiez votre Seigneur tous les jours, ils ne savent pas que c'est la vérité, c'était le sang des Juifs de tous les jours. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Okay. Ah oui, ça aurait été une éventualité de ce moment. J'ai entendu dans le temps contemporain certains prêtres chrétiens, comme vous avez dit, commencer à découvrir cela. Mais c'est très très récent. Hein. Alors, quand on s'est habitué à ce que la connotation de ce terme, l'exil, c'est la souffrance, la persécution, la déportation, alors on n'entend pas cette autre éventualité à laquelle tu fais allusion, qu'effectivement, la venue au monde, la relation au monde extérieur, pourrait être dans la gloire d'une âme accueillie par un corps. Et est-ce que c'est clair? Oui, c'est plus clair. Okay.
De l'enfer. De l'enfer. Lui être imputé comme un mérite.
Il va le dire après.
Ou bien est-ce qu'on ne peut pas considérer plutôt qu'il s'agit d'un acte égoïste, sachant que de toute façon, il a besoin de l'être du monde à venir. Par conséquent, si Israël s'accorde et en enfer, il perd la possibilité de participer au mérite du monde. Et je dirais même plus loin, de l'avoir et soit d'être sûr qu'il ne soit pas ailleurs.
Qu'il ne soit pas
ailleurs.
Oui. Oui, je vais relier cette question un peu plus tard au fait que le fait qu'on dit qu'Isaac préférait que Israël, les enfants de Jacob, soient en exil chez Edom, chez Esav et pas chez les autres nations. Mais alors, avant ça, il y a quand même un préalable. Ça veut dire au fond, c'est qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est de sauver de l'enfer mamache? Est-ce que c'est tout? Attendez, ne m'interrompez pas. Je vois en général quand vous levez la main, à la fin du parrain. Je sais que j'ai oublié de donner la parole tout à l'heure, mais c'est pas exactement. Ça veut dire qu'au fond, on est habitué à employer cette expression l'enfer, 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 mais c'est une façon de parler. Et je crois que j'en ai dit suffisamment. En disant que un être voué au monde à venir, vivant dans ce monde-ci, est en danger perpétuel de faute. Parce qu'il n'y a de faute que les fautes d'un juste. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais le Rav va toucher un peu ce point tout à l'heure. Il en a d'abord parlé en citant le verset « Kolochla v'yesham » un peu le sujet. Et on pourrait le dire au fond de deux manières. Mais je préfère pour le moment simplement citer un verset des prophètes qui dit, qui compare Babel, qui a été aussi des foyers de l'exil. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est que d'après ce texte, tout exil, c'est Edom. Et ce n'est que historiquement le quatrième exil, l'exil de Rome, qui est donc Mamache, si j'ose dire. C'est un texte important du Maharal, qui montre que chacun des exils des grandes civilisations avait un indice de mise à l'épreuve, les fèches, voire les chemins, l'exil des Dômes les récapitule tous. Ça va un peu dans ce sens. Ça va bien. Et alors. La question est de savoir si il peut y avoir une rédemption pour les aïeux. Pensez un peu à 114. Il va y avoir un petit coup, un salut pour les aïeux. Et la réponse que je vais donner m'échappe. Enfin, je vais quand même la retrouver. C'est interdit, je sais pas. Enfin, on retrouvera l'évitation. Je pense, en tout cas, personnellement, que quel que soit l'optimisme, l'espérance qu'on peut avoir, c'est irréversible, c'est trop tard. Il ne semble pas que ça se dirige vers une solution positive pour Esaïe. Et en particulier par le fait que l'amorce de repentir d'Esaïe en tant que tel, je pense que les mots sont clairs, vient après la Shoah. Si c'était avant, peut-être, mais après la Shoah, c'est trop tard. fond, à l'intérieur de cette question, il y a une autre que moi je me pose. Pourquoi les Juifs ont tendance à préférer les Alliés à tous les autres nations? Enfin, ce type de civilisation, en tout cas, j'explique du point de vue de l'histoire contemporaine. Finalement, toutes les communautés juives des pays d'Islam, donc de l'île d'Ismaël, qui ne sont pas rentrées en Israël, ont préféré rejoindre ça. Vous avez remarqué ça? Et il y a donc quelque chose qui travaille. Bien, alors c'est à vous. Ben oui, non, mais vous avez remarqué qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. J'ai dit moi en français en disant.
Tout à l'heure,
ma mère, j'en répondais à Michel Frank. Il vaudrait mieux l'entendre par Guérinam. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël, une des choses qui m'aurait étonné, mais alors c'est un amour juif colossal. On m'a montré où c'est Guérinam. Mais non, avec une tranquillité. C'est ici le Guérinam. Le Guérinom, il faudrait dire. Tout le Guérinom. C'est la vallée de Guérinom. Bon, l'idée que ça. Au fond, et je ne crois pas d'ailleurs que j'en parlais, j'en suis absolument incapable. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, je suis encore jamais allé. Mais enfin, au niveau des concepts, on peut comprendre de quoi.
Je me demandais, là, dans cette réponse là qu'on voit, on nous dit que finalement Israël ne peut être que comme l'ange déchu. Alors finalement, ça pose le problème de la venue du Mashiach. Dans ce cas-là, ça veut dire que le Mashiach ne viendra qu'à la fin des temps et Israël ne peut pas. Il n'y a pas de possibilité pour Israël de le faire avancer parce que ça.
Écoutez, comme nous sommes a posteriori du temps passé et du temps perdu, la recherche c'était tout. Eh bien, on est bien à l'aise pour dire que la question ne se pose plus. Le Maharal en a parlé. Il a dit, bon, ça aurait pu être déjà depuis le début des 2000 ans, des temps où le Messie pouvait venir. Avonot Arabim, Avar, ma chère Avar, le temps a passé, maintenant on est à la fin, alors on attend la fin. Donc c'est une question maintenant théorique, abstraite. A priori, ça aurait été possible. Et a priori, on a prié Ba'agala, Bizon Kari, Bimera, Biavenu, Ayom et Bekorot Ishmael. Mais a posteriori, il se dévoile que. Je reprendrai votre question, parce que ça ne veut pas dire que, objectivement, métaphysiquement, ce n'était pas objectivement possible. Mais on n'a pas voulu, on a préféré attendre la fin.
C'est ce que voit Yitzhak, donc ce texte.
Pas ce moment du texte. Israël ne voit pas le retard, il voit le phénomène, il ne voit pas la perspective historique sur laquelle vous avez posé votre question. Que ça a duré 2000 ans. Que ça dure une génération, c'est le même problème. Ici, dans ce pays. Parce que c'est clair. Il y a eu un retard. Et il se dévoile que, semble-t-il, nous avons choisi, le peuple juif a choisi d'être en retard. Alors, soit pas. Le Maharal enseigne cela a posteriori, en son temps, c'est déjà la fin de ce délire. Et il dit, maintenant que le temps est passé, on attend la résurrection de mort. Est-ce que c'est clair? Tu connais ce texte dans les sages. Enfin, c'est pas, il dit pas ça comme ça, qu'on attend la résurrection de la très inutile. Il dit, maintenant l'essentiel, ce serait inutile. Oui.
Manitou, le drame de l'exil et ses visages,
troisième angle. Les hommes qui auront vécu d'après la Torah seront d'un côté les hommes de l'autre, au jugement. Et l'argument d'égoïsme est très joli.
Manitou, le drame de l'exil et ses visages, deuxième bande.